Jérémie 31, les versets 31 à 34. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël, après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel !» Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés.
Ces jours-ci, depuis pas mal de temps maintenant, le débat politique bat son plein. On est en plein dedans. Il y a eu les élections aux États-Unis, maintenant il y a la primaire de la droite, bientôt il y aura la primaire de la gauche, et puis après ça sera la présidentielle. On n'en sort pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au cœur de ce changement et au cœur de ces débats politiques, il y a la notion justement de changement. Ça rate pas, à chaque élection, c'est l'idée centrale, c'est le changement. On veut du changement. Et ça en dit long finalement sur la grande insatisfaction des gens. C'est qu'on a toujours soif de changement. Et donc les candidats multiplient les appels à un changement profond, ou bien un peu plus modéré, ou heureux, ou malheureux, ou durable, radical, etc. En tout cas, on veut du changement. Et encore une fois, ça en dit long sur l'insatisfaction constante finalement, puisqu'on n'est jamais dans une situation où on dit « eh ben, on est très bien, c'est pas la peine de changer quoi que ce soit ». Alors nous sommes ce dimanche, le premier dimanche de l'Avent, et l'Avent c'est une saison autour de quatre dimanches en fait qui nous prépare à célébrer Noël, la venue donc de Jésus dans le monde. Et ce soir nous commençons une petite série donc de l'Avent. Et nous allons pour ce faire nous intéresser à un texte de l'Ancien Testament donc, que Marie vient de lire, un texte qui nous parle d'un changement profond, d'un changement radical à venir. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ, donc ça fait un bail. C'est le prophète Jérémie qui s'adresse au peuple d'Israël de la part du Dieu vivant. Et nous avons ici, parmi quelques autres textes dans l'Ancien Testament, un texte clé qui nous dit que Dieu va changer sa manière d'entrer en relation avec les hommes. Et c'est ce texte qui introduit spécifiquement une expression très importante dans le récit biblique, la nouvelle alliance, dont il est beaucoup question dans le Nouveau Testament. Et bien dans l'Ancien Testament, c'est ce texte qui est le texte clé qui nous parle de la nouvelle alliance. Alors, quelle est cette nouvelle alliance? Quel est son rapport avec Jésus? Finalement, pourquoi est-ce que dans le cadre d'une série sur l'Avent, donc la venue de Jésus, est-ce qu'on a choisi ce texte? Quel est le rapport avec nous? On va essayer d'y voir un peu plus clair et on va le faire en trois temps ce soir. On va relever en fait trois aspects de cette nouvelle alliance. Sa nécessité, son objectif et son fondement. Alors, si ça ne vous parle pas beaucoup, j'espère qu'à la fin, ça vous parlera un peu plus. Donc, cette nouvelle alliance, sa nécessité, son objectif et son fondement. Donc d'abord, sa nécessité. Alors, on n'est pas tous français ici, mais pas mal le sont. Et même les autres, puisque vous êtes en France, vous savez sans doute que nous sommes dans la 5e République. 5e République française. Alors, c'est en 1958 que ce régime institutionnel a été inauguré. Et il a apporté beaucoup de changements par rapport au précédent, par rapport à la 4e République. Alors, entre autres, entre beaucoup d'autres choses, le pouvoir du président de la République a été considérablement augmenté. Par contre, le pouvoir du Parlement a été plutôt diminué. Le poste de Premier ministre, par exemple, la fonction de Premier ministre, a été créée, alors qu'il n'y avait pas vraiment de Premier ministre sous la 4e République. Et le passage donc de la 4e à la 5e République, en même temps, ne nous a pas fait changer de pays. C'est toujours la France. Et même, c'est toujours la République. On est passé d'une forme de République à une autre. On n'a pas réinstitué la monarchie. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a eu un profond changement qui affecte le fonctionnement du pays à beaucoup de niveaux. Dans notre texte, il faut imaginer de même un changement de système, si vous voulez, mais quelque chose, bien sûr, de beaucoup plus considérable et porteur d'un enjeu beaucoup plus grand, la relation de Dieu avec son peuple. Parce que oui, Dieu, c'est encore plus important que la République, même si c'est très controversé de dire ça aujourd'hui. Alors, il faut remettre les choses un petit peu en contexte, à nouveau. Hein. Donc, je l'ai dit, Jérémie est un prophète en Israël. Alors, prophète, on peut penser à plein de choses en se disant prophète. Dans l'Ancien Testament, un prophète, avant tout, c'est un enseignant public qui proclame au peuple d'Israël, la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Donc, c'est avant tout quelqu'un qui proclame la parole de Dieu, qui rappelle les promesses de Dieu et qui rappelle aussi les attentes de Dieu pour son peuple. Et Jérémie exerce ce ministère dans un contexte, il faut le dire, particulièrement dramatique et sombre. Le pays était coupé en deux. Le pays historique d'Israël était coupé en deux. Toute la partie nord du pays avait été envahie plusieurs décennies plus tôt par l'Assyrie, en un mot, l'Assyrie, qui était une grande puissance régionale de l'époque. Et quant à la partie sud du pays, qu'on appelle le pays de Juda, la région de Juda, elle était prise en étau, prise en tenaille entre deux grandes puissances de l'époque, Babylone à l'est et l'Égypte au sud. Et la perspective d'une invasion babylonienne se faisait de plus en plus nette au moment où Jérémie parle, où ce texte est écrit ou en tout cas proclamé. Donc imaginez un peu le contexte. Imaginez si on était dans une France à moitié occupée, c'est déjà arrivé, hein, mais si on l'était à nouveau, et que la partie qui était restée libre du pays soit sur le point d'être envahie. En gros, tout le monde s'accorde pour dire c'est juste une question de temps, la partie libre va être envahie. Envahie, pas juste par des accords de libre-échange ou je ne sais quoi, mais envahie par la perspective d'un ennemi qui dit qu'il va tout raser, tout détruire et exiler les habitants du pays. Voilà. Ils ont annoncé la couleur, on arrive, on détruit tout et on exile les habitants. Donc voilà quelle était l'actualité du temps de Jérémie. Donc on se dit que ça ne va pas très bien en France aujourd'hui, mais là c'était quand même encore bien pire. Or qu'est-ce qui faisait la fierté d'Israël? Qu'est-ce qui constituait l'espérance de ce peuple? C'était l'alliance que Dieu avait conclue avec lui des siècles plus tôt, pendant l'Exode, donc après la libération de l'esclavage en Égypte. Après avoir donné sa loi au peuple par l'intermédiaire de Moïse sur le mont Sinaï, eh bien, Dieu déclare qu'il conclut une alliance avec le peuple d'Israël. Et on le voit dans Exode chapitre 19, versets 4 à 6. Dieu dit à son peuple, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Exode 19, versets 4 à 6. Dans ce texte, Dieu s'engage envers un peuple qu'il a choisi pour être en quelque sorte son peuple représentant dans le monde. L'intérêt de Dieu ne s'arrête pas au peuple d'Israël, bien sûr, et on en a un indice là au verset 5, « Toute la terre m'appartient ». Et le reste de la Bible montrera largement l'intérêt que Dieu a pour toute la terre et tous les peuples. Mais Israël a été désigné pour être le peuple qui montrerait au monde en quelque sorte qui est le Dieu souverain, le Dieu créateur, le Dieu unique. Mais cet engagement que Dieu prend envers Israël, il est quand même assorti d'une condition. Verset 5, « Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement. » Et c'est là que le bât blesse, c'est là qu'il y a un problème. Parce qu'Israël, comme le reste de l'humanité, s'est révolté contre Dieu de bien des manières. Écoutons ce réquisitoire qu'on trouve un petit peu plus tôt dans le livre de Jérémie, chapitre 16, verset 10, hein, donc dans le même livre de Jérémie, voici ce que Dieu dit. « Vos ancêtres m'ont abandonné, déclare l'Éternel. Ils ont suivi d'autres dieux, ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, ils n'ont pas respecté ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos ancêtres. » Donc c'est un verdict accablant. Israël n'a pas été fidèle à l'alliance que Dieu avait conclue avec lui. Et par conséquent, Dieu se considère en quelque sorte libre de son engagement, d'une certaine manière, au point de laisser, en tout cas d'annoncer dans le livre de Jérémie à plusieurs reprises, qu'il va laisser Babylone s'emparer de Jérusalem, détruire le temple qui était le lieu symbolique de la présence de Dieu et qui était le cœur de la foi d'Israël. Et donc le maître de l'histoire laisse Israël faire face aux conséquences de ses actes et finalement le traite comme les autres nations, c'est-à-dire en le laissant en proie à ses propres égarements et aux aléas d'un monde chaotique. Donc imaginez un peu les gens du temps de Jérémie qui entendent ces paroles ou qui lisent peut-être ces paroles quelque temps plus tard lorsqu'ils sont en exil à Babylone. Quel espoir peut-il bien rester ? Quel espoir peut-il bien rester ? Mais c'est là que les versets 31 et 32 de notre texte viennent résonner avec force. « Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance alors que moi j'étais leur maître, déclare l'Éternel. » Donc l'alliance qui avait été conclue au mont Sinaï, elle a échoué, dans un sens, et le peuple va devoir en assumer les terribles conséquences. Et pourtant, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et il promet de conclure une nouvelle alliance. Et par quoi il faut comprendre une nouvelle relation qui précisément ne sera pas comme l'ancienne alliance. Alors ce texte ne parle que d'Israël et de Juda, verset 31 et jusqu'au verset 34. Mais il y a d'autres textes dans l'Ancien Testament, plusieurs autres, qui montrent que cette nouvelle alliance, elle sera élargie en définitive à toutes les nations. Et d'ailleurs, Jérémie lui-même en parle au chapitre 3 de son livre, verset 17. « Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel et elles ne suivront plus les penchants de leur cœur mauvais. » Donc on voit que cette transformation du cœur, elle concernera toutes les nations. Mais dans un premier temps, cette promesse est adressée au peuple d'Israël. Et ici, elle est adressée au moment le plus sombre de son histoire, dans un sens, où tout espoir semblait avoir disparu. Alors nous verrons que cette espérance d'une nouvelle alliance, elle nous concerne directement, puisque justement, cette alliance, elle va concerner tous les peuples. Mais j'ajoute que ce texte nous dit aussi quelque chose du caractère de Dieu. Il nous rappelle que même lorsque, humainement parlant, la situation semble absolument désespérée, Dieu n'est jamais à court de solution. Même au fond du gouffre, la parole de Dieu fait encore autorité. Et cette parole, elle n'est pas fondée sur du vide, ce n'est pas des paroles en l'air. Mais ces paroles d'espérance, d'avenir, sont des paroles qui sont fondées sur sa décision d'intervenir en notre faveur. Dieu déclare, je vais faire quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vrai donc à la grande échelle du récit biblique, mais c'est vrai aussi dans chacune de nos vies à nous. Même au fond du gouffre, la parole de Dieu fait encore autorité. Et justement, dans ce texte, alors que Dieu semble s'être retourné contre son peuple, il annonce que le jour viendra où il se fera connaître d'une manière nouvelle. C'est notre deuxième point. Donc toujours à propos de la nouvelle alliance, son objectif. Je me souviens des années où on s'apprêtait à passer du franc à l'euro. Je m'en souviens très bien. Alors pour ceux qui étaient là, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde ici, vous vous souviendrez peut-être de toute la période de préparation. Alors, depuis 1999, déjà, l'euro existait sous forme immatérielle pour les transactions financières et autres. Et pendant un certain temps, on a vécu ensuite avec les deux monnaies. Donc 99, l'euro existe. 2002, la nouvelle monnaie est mise en circulation. Et je me souviens bien de ça, il y a eu 2 mois, je crois, où on avait les deux monnaies. Donc il fallait un peu se débrouiller dans son portefeuille pour ne pas tout mélanger. Et on payait en francs, par exemple, et on nous rendait en euros. Et donc il y a eu cette période de transition jusqu'à ce que les francs disparaissent complètement. Alors dans notre texte, Dieu parle encore au futur lorsqu'il parle de cette nouvelle alliance à venir. Ce n'est pas encore pour tout de suite. On est encore sous le régime de la première alliance. Mais Dieu annonce déjà la fin de ce régime. Ça ne va pas être pour tout de suite, et en fait, la suite de l'histoire va montrer que ça va même être encore plusieurs siècles. Mais Dieu dit, voilà, on va vers la fin de ce régime. Et le jour viendra où il y aura une nouvelle alliance. Et il invite son peuple à se préparer à quelque chose d'entièrement nouveau. La première alliance, elle a joué un rôle important. Il ne s'agit pas de dire que c'était une erreur de Dieu, bien sûr que non. Dieu s'est révélé par elle, à son peuple, et même dans une certaine mesure au monde entier. Il a donné un aperçu de qui il est et de ses projets. Mais cette alliance a échoué, entre guillemets, sur un point essentiel. Elle n'a pas permis au peuple de rester fidèle à Dieu. Verset 32, « Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. » Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître. L'homme s'est dressé en ennemi de Dieu. Il ne parvient pas à lui rester fidèle. On a vu ça largement en étudiant la lettre aux Romains. Et la loi de Moïse n'a rien changé à cela. Et donc, dans un sens, c'est un terrible échec. Alors, dans le plan de Dieu, cet échec n'est pas un accident de parcours. La fin de l'ancienne alliance a toujours fait partie de ses projets. Et d'ailleurs, déjà à l'époque de Moïse, donc tout au début, à l'époque où cette alliance a été conclue, il y a déjà des indices qu'un jour, il y aura quelque chose de nouveau. Dans le livre des Nombres, par exemple, Moïse évoque l'espérance qu'un jour, tout le peuple de Dieu sera rempli de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, que tout le peuple sera habité personnellement par Dieu et capable de discerner et de dire sa volonté. On a ça dans le livre des Nombres, au chapitre 11. Dans le livre du Deutéronome, Dieu annonce qu'un jour, il y aura comme un nouveau Moïse qui viendra et qui apportera au peuple une nouvelle instruction, et sous-entendu, qui sera différente de celle de Moïse. Exode 18, 18. Et dans notre texte, alors que le peuple d'Israël donc est au fond du gouffre, encore une fois, eh bien Dieu lui adresse la parole par l'intermédiaire de Jérémie pour lui dire « Je ne vous ai pas oublié, les jours viennent où je conclurai avec vous une nouvelle alliance. » Mais pour que cette nouvelle alliance ait du sens, bien sûr, il faut qu'elle réussisse là où l'ancienne alliance a échoué. Et c'est là qu'on en vient à l'objectif de cette nouvelle alliance. Et il est magnifiquement exprimé au verset 33 et 34. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » L'une des affirmations centrales de la Bible, c'est que Dieu est un Dieu personnel, un Dieu qui nous invite à le connaître. Mais on a vu que cette invitation à le connaître, elle se heurte à la réalité du péché de l'homme, du fait que l'homme a tendance à se révolter contre Dieu de diverses manières ou à s'éloigner de Dieu. Et c'est précisément à ce besoin le plus profond de l'homme que répond cette nouvelle alliance. Fin du verset 34, « Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Alors, je pense que Jérémie veut dire par là, que Dieu veut dire par là, alors ça inclut peut-être l'âge, mais plutôt les circonstances, le prestige personnel, l'importance aux yeux des hommes, etc. Tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Dieu donc annonce une nouvelle alliance qui permettra à l'homme de le connaître. Et le texte montre bien que connaître Dieu, ce n'est pas simplement savoir des choses sur Dieu. Je veux dire, les Israélites de la première alliance, ils savaient des choses sur Dieu. Ce n'était pas ça le problème. Ce n'est pas simplement même être croyant. Ce n'est pas très difficile d'être croyant. Enfin, je veux dire, ce n'est pas ça qui fait qu'on connaît Dieu. C'est encore moins quelque chose de purement affectif et sentimental. Dans ce texte, la connaissance de Dieu, elle est associée au fait d'avoir sa loi dans le cœur. Verset 33, « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Comme si Dieu disait, « Ça ne sera plus nécessaire que je leur donne une loi extérieure, parce qu'ils me connaîtront, ils sauront qui je suis, ils sauront ce qu'est ma volonté, ils connaîtront mon cœur, ils connaîtront mes projets. » Connaître Dieu, c'est avoir envie de rechercher et d'accomplir sa volonté. Connaître Dieu, c'est désirer lui obéir, apprendre à aimer ce qu'il aime, apprendre à s'éloigner de ce qu'il rejette. Et c'est une connaissance qui engage la pensée, qui engage la volonté, qui engage les émotions aussi. Bref, tout ce que la Bible appelle le cœur. Et c'est pour ça que Dieu annonce un changement radical par lequel sa loi ne sera plus extérieure à l'homme, mais une loi intérieure. Et dans sa lettre aux Romains, au chapitre 12, lettre qu'on connaît bien maintenant, mais on n'a pas encore vu le chapitre 12, l'apôtre Paul résume cette connaissance personnelle de Dieu dans ces termes. « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Au fond, connaître Dieu, ça veut dire aimer Dieu et avoir donc envie de vivre comme il lui plaît. Alors c'est une réalité personnelle, bien sûr, mais c'est aussi une réalité collective qui touche tout le peuple de Dieu dans une communion partagée avec lui. Verset 34, « Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. » Et ce verset laisse entrevoir, encore une fois, que toutes les barrières que la religion peut placer entre les hommes seront abolies dans le cadre de cette nouvelle alliance. Tous ceux qui bénéficieront de cette alliance en Jésus-Christ connaîtront le Seigneur, qu'il soit petit ou grand. Tous connaîtront le Seigneur. La connaissance commune de Dieu unira ce peuple, comme rien dans le monde ne peut unir les hommes. Mais la question demeure, comment est-ce que cette nouvelle alliance est possible alors que le monde reste monde et que l'homme reste pécheur? Et c'est là qu'on en arrive à la troisième caractéristique de la nouvelle alliance, son fondement. Alors je vais revenir un instant à la Ve République. Quel est le fondement de la Ve République? Sur quoi est-ce qu'elle est basée? La réponse, c'est la constitution de la Ve République qui est en vigueur donc depuis le 4 octobre 1958. La Constitution, c'est vraiment le document suprême, en quelque sorte, pour la République française. Ça fait référence, et c'est la norme juridique et politique du pays. Toutes les institutions et toutes les lois doivent s'y conformer. Pour ce qui est de la première alliance, quel est son fondement? C'est la loi de Moïse, et notamment les 10 commandements qui sont au cœur de cette loi. Pour pouvoir bénéficier de l'engagement de Dieu en sa faveur, Israël devait se conformer à cette loi, non seulement dans ses grands principes, comme l'amour de Dieu et du prochain, qui sont au cœur de cette loi, mais aussi dans ses régulations civiles, rituelles, etc. Et c'est pour tout ça que l'Alliance a fini par ne plus fonctionner. Certainement pas à cause de Dieu, qui lui a toujours tenu parole, mais à cause des hommes pécheurs. Imaginez qu'un jour le président de la République décide, par exemple, qu'il ne va pas nommer de Premier ministre. Il n'a pas envie, il ne va pas le faire. Ou l'Assemblée générale décide de ne plus voter de loi. C'est fini, on en a marre, plus de loi. En fait, ce n'est pas la Constitution en elle-même qui serait en cause. Ce n'est pas la validité de la Constitution. Mais c'est la transgression généralisée de ces principes qui fait que finalement, elle deviendrait sans effet. Elle deviendrait caduque. Eh bien, c'est ça qui s'est passé, dans un sens, avec la loi de Moïse. Malgré des siècles de patience de Dieu à l'égard de son peuple. Et du coup, la question se pose, quel est le fondement de la nouvelle alliance? Sur quoi va reposer la relation entre Dieu et son peuple dans ce nouveau système, si on ose dire, dans ce nouveau cadre? Et là, la réponse est absolument saisissante. Verset 34. « Tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Pourquoi est-ce que la nouvelle alliance, contrairement à l'ancienne, permettra aux hommes de connaître Dieu? Parce que cette alliance n'est plus fondée sur la capacité des hommes à obéir à la loi, mais sur la décision souveraine de Dieu de pardonner les péchés. C'est ça le fondement de la nouvelle alliance. Alors comprenons bien ce que ça veut dire. Dieu nous fait bénéficier de la nouvelle alliance, de cette nouvelle relation avec lui. Il s'engage envers nous, non pas parce que nous avons réussi à lui obéir, mais parce que lui a décidé de pardonner nos péchés. Et donc à chaque fois que nous ne serons pas à la hauteur, c'est-à-dire très souvent, eh bien au lieu de faire face à une loi qui nous accuse et qui nous condamne, nous ferons face à une décision ferme et éternelle de Dieu, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Là où la loi m'accuse encore et encore de péché, la grâce de Dieu manifestée dans la Nouvelle Alliance me déclare encore et encore pardonné. Vous voyez comme on rejoint l'enseignement de l'apôtre Paul. C'est parce que l'apôtre Paul, il ne l'a pas inventé. Il a trouvé ces choses-là déjà dans l'Ancien Testament. Je ne me souviendrai plus de leur péché. C'est fort comme expression. Je ne me souviendrai plus. Et c'est pour ça que lors du dernier repas qu'il a pris avant d'aller à la croix, Jésus, en prenant symboliquement du vin comme emblème de son sang qui allait couler par sa mort sacrificielle sur la croix, eh bien il a déclaré « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance pour le pardon des péchés. » Marc 14, 24, et texte parallèle chez Matthieu et Luc. Jésus a prononcé ces paroles juste avant d'aller accomplir sur la croix le pardon de nos péchés, juste avant d'aller accomplir cette promesse faite 7 siècles auparavant. Et ce pardon de Dieu qui efface la faute de l'homme, eh bien Jésus l'a accompli en se donnant lui-même, en subissant à notre place définitivement le jugement de Dieu contre nos péchés. Ce jugement par lequel Dieu a livré Israël à Babylone. Et plus généralement, ce jugement par lequel Dieu livre les hommes à leur propre perdition. Eh bien, ce jugement, il est définitivement tombé sur Jésus-Christ. Et quelques jours seulement après la croix, le ressuscité a envoyé ses disciples parcourir le monde entier pour proclamer la repentance et le pardon des péchés. Un pardon à saisir par la foi et la repentance, c'est-à-dire un demi-tour de la vie. Ce n'est pas un pardon qui fait qu'on continue comme avant, hein. On l'a suffisamment dit à propos de Romains. C'est un pardon qui retourne notre vie et qui fait qu'on va tout faire pour vivre comme Dieu l'attend de nous, pour connaître Dieu de tout notre cœur, pour apprendre enfin à le connaître. Et voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Voilà pourquoi nous qui, en grande majorité, sont non-juifs d'origine, eh bien nous héritons également par la grâce de Dieu de cette ancienne promesse faite à Israël et à Juda. Et voilà pourquoi, juste avant la naissance de Jésus, l'ange annonce à Joseph à propos de l'enfant qui va naître, « Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1, verset 21. Donc Dieu nous invite à entrer dans cette nouvelle alliance si nous ne l'avons pas encore fait. Libérés par son pardon, libérés pour apprendre chaque jour à mieux le connaître et à mieux l'aimer. Et si nous avons déjà saisi cette relation avec lui, alors cette alliance, ce n'est pas juste un point fixe dans notre parcours. Parce que justement, il s'agit de connaître Dieu. Et connaître Dieu, c'est quelque chose de dynamique. C'est un approfondissement de chaque jour. C'est une aventure magnifique, en fait, de vivre pour apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux chaque jour. Je vous invite à prier. Nous voulons te remercier, notre Père, parce que, selon ta volonté souveraine, tu as voulu conclure une nouvelle alliance. Tu savais que cette ancienne alliance, juste en elle-même, aboutissait à la condamnation, non seulement du peuple d'Israël, mais de tous les hommes, à cause de notre propension à te désobéir, à vouloir être nos propres dieux plutôt que de nous soumettre à toi. Mais merci parce que tu n'en es pas resté là et tu nous as envoyé Jésus-Christ, ton Fils, pour qu'il puisse conclure pour nous cette nouvelle alliance, cette nouvelle relation fondée sur ton pardon. Et merci parce qu'il y a là une profonde assurance qui nous libère aussi pour ne plus courir après le succès aux yeux des hommes, l'épanouissement dans tous les domaines, mais pour rechercher ce qu'il y a de véritablement meilleur, qui est de te connaître mieux chaque jour. Au nom de Jésus, amen.